pour toutes les générations, conçu et réalisé par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
Bienvenue. Aujourd'hui, avec la charmante équipe de Génération, nous vous proposons de poursuivre le voyage au pays de l'écriture. Souvenirs, histoire, mouvements créatifs, sans oublier notre rendez-vous avec Jean de La Fontaine. Mais exceptionnellement, nous commençons avec la rubrique Santé pour les bonnes résolutions de ce mois de janvier.
Malade, toi, seule peut me guérir.
C'est le moment pour arrêter de fumer et Christine, tabacologue, va vous y aider. Les méfaits du tabagisme sont innombrables. Cancer, bronchite chronique obstructive, maladie cardiovasculaire, mais également altération de la peau, du moral et de la libido. Le nombre de décès dus au tabac en France représente annuellement 73 000 personnes. Le tabac tue un fumeur sur deux. Justement, Christine, pour arrêter de fumer, comment faut-il faire ?
Pour s'arrêter de fumer dans de bonnes conditions, il faut tenir compte de sa dépendance physique à la nicotine et de sa dépendance comportementale. Donc, il faut faire le bilan du tabagisme pour déterminer le traitement adapté à ses besoins. Il faut savoir que maintenant, de nombreux traitements sont remboursés par l'assurance maladie, au même titre que n'importe quel médicament remboursé, sans besoin de faire l'avance des frais. Ces traitements, il en existe trois, qui sont validés scientifiquement pour l'arrêt du tabac. Il y a la famille des substituts nicotiniques que tout le monde connaît, les patchs, les gommes, les comprimés, les pastilles à sucer. Il existe aussi des sprays de nicotine, des inhaleurs. Il y a ensuite deux médicaments qui s'appellent le Champix et le Ziban et qui sont utilisés souvent en deuxième intention.
Je suis amoureux d'une cigarette. Suzy, je suis amoureux d'une cigarette. Et je suis amoureux d'une cigarette.
Ensuite, il faut s'occuper de la dépendance comportementale. Donc pour cela, il faut mettre en place des stratégies comportementales pour changer ses habitudes et éviter les envies réflexes. Il faut mettre en place des compensations dans le domaine du plaisir, profiter de l'argent du tabac justement pour prendre soin de soi, se détendre, faire du sport, avoir des loisirs, se gâter, se récompenser, ceci afin d'éviter la frustration, parce qu'arrêter de fumer, c'est se priver d'un plaisir et ça peut générer de la frustration.
Affranchi comme une carte d'un timbre sur l'épaule droite, c'est la traversée du désert, je viens d'écraser la dernière, comme un grand coca glacé sous la canicule d'été qu'on vous empêcherait de boire et sur lequel on peut s'asseoir.
Si on a du mal à gérer tout ce qui est comportemental, tout ce qui est habitude, réflexe, il faut à ce moment-là se tourner vers des thérapies cognitives et comportementales. Les études ont montré que quand on était accompagné dans une démarche de sevrage tabagique par un professionnel de santé, on avait beaucoup plus de chances de réussir son arrêt. La cigarette électronique, on sait qu'elle peut aider certains fumeurs à arrêter de fumer. Effectivement. Ceci dit, nous n'avons pas encore assez de recul pour savoir si, sur le long terme, cette cigarette électronique n'aura pas d'effet néfaste pour la santé. il faut impérativement l'utiliser comme un outil de sevrage sur un temps donné et non comme un produit de remplacement du tabac sur le long terme.
24 heures sur 24, la blessure arbitraire, la convoitise opiniâtre d'une bouffée salutaire. J'ai beau mâcher des trombones et tordre des clous à cette idée qui se cramponne. J'aimerais tordre le cou, c'est décidé, j'assume. Déterminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. C'est sympa de m'accompagner dans le renoncement du vice. Tout le monde m'a félicité, à part Philippe et Maurice, qui m'attendent au tournant quand j'irai en cachette. Désespérément, craquer l'allumette. 1, 2, 3, 4, jours sans tabac. C'est pas beaucoup certes, mais dans 26 ça fera un mois. On me trouve légèrement irritable et je me demande bien pourquoi. Sans doute parce qu'il est ratable, j'ai défenestré le chat.
Alors certes, ça peut aider, ça peut vous permettre d'être plus détendu pour arrêter de fumer, mais si vous êtes fortement dépendant de la nicotine, vous éprouverez toujours un manque physique de nicotine important auquel il sera difficile de résister. Donc ça ne vous dispensera pas d'un traitement d'aide à l'arrêt du tabac. Ça, c'est important à savoir. Ensuite, la question qu'on se pose souvent et qu'on nous pose souvent, c'est « est-ce que je vais prendre du poids ?» Alors, il faut savoir que quand on fume, on accélère anormalement tout un tas de choses dans l'organisme, hein, les pulsations, la tension artérielle, le transit, mais aussi le métabolisme. Et il faut savoir que tous les jours en fumant, on brûle des calories. C'est-à-dire qu'un fumeur de 20 cigarettes par jour brûle en moyenne 200 calories rien qu'en fumant, parce que son métabolisme est anormalement accéléré. À l'arrêt du tabac, ce métabolisme va redevenir normal, et donc il ne va plus brûler ses 200 calories. Donc pendant la période de sevrage, eh bien, il va falloir faire en sorte d'agir, si vous voulez, sur l'apport et les dépenses.
Quelle tristesse, c'est pas gai, tous ces terres pures qui s'infiltrent. Sans vouloir mégoter, ma vie ne tient plus qu'un filtre. Je regrette le temps jadis où j'occupais mes doigts et trouver consistance sans forcément prendre du poids. À combler le vide d'air par le contenu du frigidaire, je céderais mon trône pour un mégot, mon royaume pour un chameau. Et si je déclarais forfait en plein milieu du match, personne pour me dire échec et patch.
Il ne s'agit pas de se mettre au régime dans des restrictions terribles. Il suffit d'avoir une alimentation équilibrée et d'avoir davantage d'activité physique, de bouger davantage, de marcher davantage. Voilà. Ça, pendant la période de sevrage, si vous faites ça, vous ne prendrez pas de poids. Donc, arrêter de fumer sans prendre de poids, c'est possible. Arrêter de fumer en gardant le sourire et en se faisant plaisir, c'est possible. Arrêter de fumer, c'est arrêter de voir sa santé et son argent partir en fumée. Alors vous allez me dire, mais quel est le meilleur moment pour arrêter de fumer? Eh bien, le meilleur moment pour arrêter de fumer, c'est le plus tôt possible.
Je ne fume plus une cigarette. Arrête.
Pour retrouver toutes ces informations, vous pouvez vous connecter sur le site Tabac Info Service. Vous y trouverez également l'annuaire des consultations de tabacologie, ville par ville, région par région. Et si vous voulez vous entretenir avec un tabacologue, vous pouvez le faire gratuitement en appelant le 39 89. Je vous souhaite à tous une très belle année sans tabac.
Acrostiche. Poème dont les initiales des vers lus verticalement compose un mot. Et avec le mot écriture, qu'est-ce que ça pourrait donner? E. Écrire un roman. C. Comme le ferait R. Romain Rolland. I. Intimité d'un récit. T. tout en douceur. U, un baume sur le cœur. R, raconter une vie. E, et finir quand tombe la nuit.
En bateau l'air en attaché avec son cœur, avec ses pieds. Tout raturé, droit ou penché, à la plume ou bien à la craie. En silence comme ça pour de vrai, en chinois ou en javanais. À l'ancienne au plus que parfaite, ou de travers bien volontiers. Écrire.
L'écriture. Quel souvenir d'enfance lié à l'écriture ? Bien, pour moi, pas forcément les meilleurs. Allez, remontons jusqu'à mes 7 ou 8 ans. Il faut dire que j'étais plutôt une bonne élève à l'époque, sans vouloir me vanter. Enfin, disons que j'avais des bonnes notes. Sauf en écriture. Je crois qu'on notait à la fois si l'écriture était bien faite et le soin qu'en général qu'on apportait à nos cahiers. À l'époque, on écrivait avec une plume dans un porte-plume, une plume sergent-major, et de l'encre qu'on mettait dans des encriers intégrés dans nos tables de classe. Je suppose que je plaçais mal mes mains sur le porte-plume et que mes doigts touchaient la plume. Enfin bref, j'avais toujours de l'encre plein les mains. C'était pas la peine d'appeler la police scientifique pour savoir quels étaient mes cahiers. Il y avait mes empreintes digitales partout. Et voilà, 10 en calcul, enfin 10 ou pas loin en conjugaison et grammaire, et en soins. Alors déjà, rien que le mot soin, ça me hérisse le poil. Donc en soins, je devais avoir 2, les bons jours. Mais il n'y avait pas que le problème de la note, enfin qui était un peu vexante quand même. Le pire, comme je vous l'ai dit, c'est que j'avais de l'encre plein les mains. Et au lieu de chercher à comprendre pourquoi j'étais le seul cochon de la classe, essayer de corriger ma position, la maîtresse a dû trouver beaucoup plus simple de me faire avoir en permanence du savon et une serviette. Et à la fin de chaque séance d'écriture, je devais aller aux toilettes pour me laver. Et j'étais la seule de la classe à devoir faire ça. Il fallait que je me lève devant tout le monde, que je traverse toute la classe avec ma petite serviette et mon savon. La honte ! Je peux vous dire que j'ai béni l'arrivée du stylo bille. Merci, monsieur Bic. Mais mon histoire avec l'écriture ne s'arrête pas là.
Dans un cahier, sur un tableau, dans le sable ou sur un oiseau. Au bout du monde, sur une pierre, contre un arbre au bord de la mer. Au saut du nid, dans sa cachette, tard dans la nuit, à la fenêtre. Sur des carreaux, sur des murs, à la ligne et à l'aventure.
Et pour pouvoir écrire des textes, des phrases, des mots, il faut des lettres. Bien longtemps après mes déboires scolaires, plus de 40 ans plus tard, j'ai croisé la route d'une calligraphe qui m'a fait découvrir une autre facette de l'écriture. La calligraphie. La belle écriture. L'art de former de beaux caractères. Moi, retoucher un porte-plume, renouer avec l'encre, mais j'avais peut-être une revanche à prendre. Voilà comment j'ai commencé à m'intéresser à la beauté des lettres et aussi à leur histoire. L'écriture, c'est ce qui distingue la préhistoire de l'histoire, et ce n'est pas rien. L'écriture est apparue à différents endroits dans le monde et à différentes époques. On ne va s'intéresser qu'à l'alphabet latin, le nôtre. Et pour lui, tout commence avec les hiéroglyphes égyptiens, il y a environ 5500 ans. Les hiéroglyphes constituent un système complexe, un caractère représentant soit un mot, soit un son. C'est une sorte de rébus. Les Égyptiens vont rencontrer des Cananéens venus travailler en Égypte. Les Cananéens arrivent de la rive est de la Méditerranée. Ils vont imiter les Égyptiens et adapter les signes à leur langue en affectant un son à un signe. Les dessins figuratifs deviennent des lettres, et l'alphabet est né. Les Cananéens vont rentrer dans leur pays et ramener cette écriture. Elle va être ensuite reprise et adaptée par les Phéniciens. Les Phéniciens habitaient à peu près le périmètre du Liban actuel. Les Phéniciens vont donc reprendre cet alphabet et en faire un système de 22 lettres, uniquement des consonnes, et qui s'écrit de droite à gauche, donc à l'inverse de notre écriture actuelle. Là, on est il y a environ 3000 ans.
طاب الليمون عالشجر يميني هز الشجر لما رواه المطر عبي بحجره.
Les Phéniciens sont de grands marchands et de grands navigateurs. Ils vont diffuser leur alphabet à travers tout le Moyen-Orient et en Méditerranée. C'est lui qui va être à l'origine de nombreuses écritures. En Orient, il donnera naissance à l'écriture araméenne qui engendrera les caractères hébraïques, mais aussi arabe, persan et indien. En Occident, il donnera les bases de l'alphabet grec, dont dérive le latin, ah voilà enfin notre alphabet, et plus tard le cyrillique. Jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, on écrira de droite à gauche, ou en boustrophédon.
J'ai du mal à le dire, boustrophédon. Mais quel est ce terme bizarre ?
Eh bien, il s'agit d'un système d'écriture, dont les lignes qui se suivent se lisent alternativement de droite à gauche et de gauche à droite. Donc quand on arrive en bout de ligne, on ne repart pas au début de la ligne, mais on repart dans l'autre sens, comme les sillons de la bourre. Et d'ailleurs, boustrophédon vient du grec ancien de deux mots qui signifient bœuf et action de tourner. 200 ans plus tard, on va passer à une écriture de gauche à droite. Eh ça y est, nous y sommes. Mais vous avez vu quelle épopée ça a été pour que nous puissions aujourd'hui rédiger un roman, une lettre d'amour ou un email. Les premiers pictogrammes dont dérive la première lettre phénicienne Aleph, ancêtre de notre A, représentent un taureau. Un triangle, pointe en bas, prolongé par deux cornes. Vers le 11e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens basculent ce signe de 90 degrés. Les cornes sont alors tournées vers la droite. Encore un coup de 90 degrés, et voilà notre grand A. Essayez donc, prenez un papier et dessinez un grand A. Tournez votre feuille pour la mettre la tête en bas. Alors, vous la voyez la petite tête de taureau avec ses deux cornes ? Et le H, il n'est pas beau le H ? En capitale, il est lui aussi bien stable sur ses deux colonnes avec sa traverse bien droite. En minuscule, une montante qui se dresse vers le ciel et une petite jambe qui, selon les écritures, va être parfois sobre, parfois joliment arabiscotée. C'est vrai qu'il ne fait pas partie des lettres les plus utilisées en français, mais je l'aime bien quand même. La forme picturale du H symbolise la notion de barrière. Deux traits horizontaux parallèles et des barreaux verticaux, dont le nombre varie selon l'époque. Son évolution est relativement simple. Il va basculer de 90 degrés pour devenir une échelle et il sera simplifié en grec classique en ne conservant qu'un seul barreau. Savez-vous que le H n'est pas forcément féminin ? On a pour habitude d'attribuer le masculin à toutes nos lettres et c'est ce qu'on va trouver dans le Larousse. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et aujourd'hui encore dans le littré, la lettre H est féminine. Une petite H, une H majuscule, une H muette. Voilà, je vous ai offert deux lettres, le A et le H. Faites-en bon usage. Deux lettres comme initiales, animal et homme, amour et haine, ou pour débuter de bien jolis mots. Hallucinant, harmonie, hamac, harpe, au bois, Hawaï. Être dans un hamac à Hawaï, au son du hautbois et de la harpe, quelle harmonie. C'est hallucinant, non?
Colette va nous parler du dadaïsme et de son fondateur, Sarah.
Tristan Tzara est né en 1896 en Roumanie et il est mort en 1963 à Paris. Tzara était l'un des poètes les plus importants de ce mouvement qu'il a fondé avec Jean Harpe et Hugo Ball à Zurich en Suisse pendant la Première Guerre mondiale. Ce mouvement d'avant-garde était totalement révolutionnaire et a été la pierre angulaire de l'apparition plus tard de plusieurs mouvements, tels que le surréalisme et, dans une certaine mesure, la pop art des années 60. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Mais ce n'est pas en quelques minutes que je peux vous résumer ce qu'est le mouvement Dada. Ce qui m'a interpellée en faisant mes recherches, c'est que j'ai découvert qu'à la même époque, soit en 1916, une technique littéraire similaire, appelée cut-up, avait été créée par l'artiste britanno-canadien Brian Jison et reprise dans les années 50-60 par le romancier américain William S. Burroughs. I got out my little tins and machines to make a meal, but realized that it might be dangerous to let my gasoline train planets in this place. In any case, it refused to work. Neither would my candle when I would cut my hand. As their fire blazed up and their water boiled, they began the laborious ceremony of making tea in teapots big enough. L'idée consiste à découper une œuvre originale en fragments et de les réarranger aléatoirement pour générer de nouveaux textes. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Le cut-up a eu du succès, et notamment dans le monde du rock. Oui, oui, dans le monde du rock. Il semblerait que certains groupes l'aient utilisé pour créer des chansons telles que les Rolling Stones, les Beatles, Kurt Cobain, Iggy Pop ou David Bowie, pour ne citer qu'eux. Il existe même une vidéo où l'on peut voir David Bowie découper un texte et créer la chanson « Moon Age Daydream » qui commence par « I am an alligator ». Désolé pour mon accent. Et voilà comment d'un texte qui me paraissait juste amusant, j'en suis arrivée à David Bowie. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut.
Colette nous a parlé du dadaïsme et de la technique du cut-up. Ça m'a donné envie d'essayer. Je me demandais bien quel résultat ça pouvait donner. J'ai donc appliqué sa recette. Je suis partie d'un texte quelconque. Là, j'ai pris un extrait d'article qui traite de la manière de regarder une œuvre d'art. Je l'ai découpé, un mot ou un petit groupe de mots à chaque découpe. Tous ces petits bouts étaient mis dans un sac, puis tiré au sort pour former un nouveau texte. Voilà le texte de départ. Mais que fait cet escargot dans une annonciation de la Renaissance? Quel sens donner à cette minuscule tache rouge venue troubler l'équilibre parfait d'une composition abstraite? Pourquoi cet effleurement à peine suggéré entre les deux éléments d'une sculpture me donne-t-il des frissons? C'est bien connu, le diable est dans les détails. ces petits éléments discrets, insolites, a priori anodins, constituent en réalité une porte d'entrée extraordinaire pour pénétrer au cœur de l'image. On croit souvent, à tort, qu'il faut une tonne de connaissances pour les interpréter. Or, il suffit d'ouvrir l'œil. Après mon tirage aléatoire, on ne peut pas dire qu'on a un texte relevant de la grande littérature. Mais finalement, est-ce qu'on ne voulait pas un peu de surréalisme ? Vous devriez essayer, c'est plutôt marrant à faire. Écoutez donc le résultat de mon test. Une composition abstraite.
De petits éléments.
Sculpture de connaissances.
Au cœur de l'image.
Que fait cet escargot dans une annonciation ?
Minuscule tache rouge à fleurement à peine suggéré.
C'est dans les détails.
Et quel sens donner ?
De la Renaissance.
Il en faut une tonne.
Il constitue, mais que me donne-t-il ?
D'insolite.
D'extraordinaire.
Il suffit d'ouvrir l'œil.
On croit souvent.
Elle est venue troubler l'équilibre.
Pour les interpréter.
Une porte d'entrée, c'est bien connu.
Pour pénétrer les frissons.
Entre les deux éléments.
En réalité, à tort.
A priori.
Discret.
Anodin.
Diable.
Les fables de La Fontaine.
Le lion et le rat. Cette fable, située dans son premier recueil des fables, a été écrite en 1668. Celle-ci a su capter l'intérêt de l'écolière que j'étais. Aujourd'hui, je crois comprendre pourquoi la morale de cette fable m'a séduite. Certainement par le fait qu'un individu, a priori plus faible physiquement et moins important, le lion n'est-il pas le roi, peut par ses aptitudes intellectuelles et morales exister et même se montrer indispensable aux yeux de quelqu'un de prétendu supérieur. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Le projet Génération, c'est avant tout un spectacle, puis une émission radio, et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.